Vous écoutez
RMC. C'est le vestiaire des GG.
Alors c'est une petite nouveauté, dans votre vestiaire, les amis, vous allez vous confier, échanger sur votre vécu, partager vos expériences, parce que vous en avez tous et toutes énormément, débattre ensemble à partir d'un sujet d'actualité. Cette semaine, on veut parler de la volonté de Ligue 1+, vous savez, le nouveau diffuseur du championnat de France, d'accéder à plus de moments intimes avec les clubs. Alors certains sont pour, d'autres moins, comme Louis Saint-Riquet, on l'écoutera tout à l'heure, le coach parisien. Les GG, ce qui m'intéresse, c'est comment vous, parce que tous dans votre carrière de sportif et même de journaliste, Ludo, vous avez vécu l'immersion des médias dans votre intimité de sportif ou de journaliste pour avoir joué avec ça. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre cette immersion encore un peu plus parfois? Pascal, je voulais commencer avec toi puisqu'on parle de foot et toi, t'as quand même ouvert dans ta carrière. Raconte-nous.
Oui, ben après j'ai connu deux époques, celle quand j'étais joueur où le journaliste de la presse régionale quotidienne s'installait dans l'avion, venait avec nous, rentrait dans les vestiaires sans problème. C'était une autre époque. Et puis ensuite avec l'arrivée de Canal, la multidiffusion des matchs de foot et aussi cette volonté, donc cette clientèle qui a besoin de plus en plus eh bien de connaître le foot, ses arcanes, eh bien j'ai connu aussi l'ouverture des vestiaires, ça m'est arrivé. Je l'ai fait une fois, par exemple, à Toulouse. Tout
bien
le
sûr.
Monde apparemment s'en souvient.
Et
en fait, que vous dire d'autre que ça fait partie de notre métier, que c'est, ma foi, quelquefois agréable, surtout souvent agréable, quand on a affaire, ce qui est généralement le cas, à des gens bienveillants du monde de la corporation des journalistes, des gens qui respectent les règles. C'est encore une fois, souvent le cas, pas toujours, quelquefois, eh bien, il y a des journalistes qui ne respectent pas le deal qui a été passé. Eh bien, à votre corps défendant, ben, vous le prenez dans la gueule, c'est comme ça, hein. C'est la vie. Mais cela dit, on a besoin des uns des autres. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse. Grâce à vous, grâce aux médias, le fait d'être consultant m'a permis d'appréhender le métier de journaliste que je connaissais peu, ma foi, d'une autre manière. J'ai vu qu'il y avait des gens très compétents, il y avait des gens qui travaillaient beaucoup, alors que je pensais quand on disait d'un de mes matchs à l'ETG qu'il était pauvre, je pensais que en fait on me visait en permanence. Non, en fait, ils ne faisaient que reproduire ce qu'ils avaient ressenti, à savoir être pertinent, certes, mais aussi objectif. Donc voilà, ça m'a permis de non pas de me réconcilier, j'étais fâché avec personne, mais je peux vous dire que l'ouverture, elle fait du bien, elle permet aux gens de découvrir notre sport de l'intérieur. Par contre, attention, on peut pas tout montrer. Voilà, pas tout, un peu, beaucoup, mais pas tout.
Mais Pascal, quand tu ouvres ton vestiaire à Toulouse, qu'est-ce que finalement, qu'est-ce que ça t'apporte? Tu prends un risque aussi, parce que.
Mais en fait, il faut Ludo, il faut savoir. Bah, tu es partie prenante, tu étais à Canal. Donc, si t'es mieux, je bossais pour Canal quand j'ai été entre l'ETG et Toulouse 6 mois ou 7 mois sans boulot. J'étais à une émission qui était fameuse avec également Julien Canard,
Cazard
et Stéphane Guy.
J'ai plus un.
Ouais, c'était marrant. C'était le nom de mon agent, en fait. C'était le nom de mon agent. C'est Oudou le lapsus. et en fait, eh bien, c'est Laurent Salvaudon qui était le rédacteur chef de cette émission, qui un jour, quand il voit, il pressent que Toulouse va probablement se maintenir, en tout cas qu'il va y avoir un match décisif. Eh bien, il me dit, Pascal, est-ce que 48 heures, tu accepterais qu'on te suive et qu'on suive l'équipe? Bah, j'ai demandé simplement, j'étais d'accord, mais j'ai demandé l'avis à ma direction. Je pensais vraiment que ça allait faire du bien au Toulouse Football Club que de montrer un peu les coulisses d'un possible exploit, parce que ça a été un exploit.
Et Pascal, ça a changé un peu ta vie aussi, pour le coup, d'avoir ouvert les vestiaires. Non, mais c'est vrai, tu parlais de ta causerie à l'heure.
Malheureusement, j'ai pas eu le droit de conserver les droits.
Non, mais
si j'avais conservé les droits, ça aurait vraiment changé ma vie.
Non, mais raconte-nous, c'est vrai que cette causerie, le fait d'avoir ouvert. En fait,
le caméraman qui était là avec nous avait l'habitude de faire intérieur sport. Donc, au bout d'une heure, je l'avais oublié. Il est venu 48 heures avec nous. J'avais oublié qu'il était là. Donc, j'étais simplement naturel. Et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je donne encore des confs. Je fais des conventions avec des boîtes. Et c'est surtout grâce à cette causerie qui, apparemment, est devenue mémorable. Donc, changer ma vie, ça n'a pas changé
bien
ma
sûr.
vie, qu'on soit bien d'accord. Mais souvent, quand on parle de ma carrière, eh bien, on parle souvent, ou en tout cas, on ne manque pas d'évoquer cette, je vais pas dire fameuse, mais cette causerie.
Et ça a créé quelque chose de positif autour de toi, peut-être la perception du journaliste Ludo Duchesne, comme Pascal le disait, tu as bossé à Canal. C'est un jeu difficile parfois. Bah, déjà, l'accès, évidemment, à l'intimité des sportifs, mais le rapport de confiance dont parlait également Pascal, avec le sportif, il y a des choses qu'on montre et des choses qu'on montre pas.
Non, mais c'est primordial. Moi, j'ai toujours cherché, j'ai fait beaucoup d'interviews, notamment pour le Canal Football Club, où je recherchais ce lien de confiance avec les sportives ou sportifs de haut niveau. Donc, c'était donnant-donnant, en fait. Et ils me faisaient confiance, et en retour, je leur rendais. Si je ne leur rendais pas en retour, la confiance s'estompait. Et dans ces cas-là, il n'y avait plus de relation. Donc, j'ai vécu des grands moments aussi avec, mesdames, mais surtout avec des fouteux qui m'ont accordé leur interview exclusive. Donc c'était aussi la force de Canal, évidemment, mais c'est vrai que je me rappelle de plein d'interviews où tout d'un coup on te fait confiance. Je me rappelle de Payet qui m'ouvre ses portes alors que la semaine d'avant il vient de s'insulter sur le terrain avec Florian Thauvin, c'était déjà l'OM. Donc ça a été des moments très forts. Donc
il a été viré.
Oui.
Ah, non, en plus ils sont restés tous les deux. Donc, à l'époque, je crois que c'était Vincent Labrune, en plus le président. Ouais. Mais non, il est resté évidemment. Donc, ce lien de confiance, il est primordial. Je pense que Alizé et Sarah diront la même chose. Mais quand un sportif te fait confiance, il faut lui rendre. Et il y a des choses, par exemple,
ça se construit. On est d'accord.
Ça se construit, ça prend du temps.
Ça se fait pas comme ça.
Et ça permet aussi Sarah et Alizé de peut-être se dire les choses. Par exemple, on m'a dit, des fouteux lors d'interview me disaient, Ludo, ça, est-ce que tu peux enlever cette phrase? Est-ce que tu peux? Ben oui, parce que c'est un échange, parce qu'on est ensemble. Alors je le disais pas à Karim Nedjari, parce que Karim il voulait qu'on n'enlève rien. Donc je lui disais surtout pas. Mais du coup non, mais c'était un oui parce que je savais qu'il me le rendrait et que la prochaine fois qu'il exprimerait, ça serait à mon micro. Donc c'est comme ça que je vois mes rapports avec les sportives et sportifs de haut niveau. Et ça a toujours été très fort. Moi j'adore toujours ces liens qui sont pour moi très forts avec.
On est dans le vestiaire des GG du sport. On parle de l'intimité auquel veulent avoir accès les médias, une immersion dans votre quotidien de sportif, parce que Ligue 1 Plus, le diffuseur veut avoir de plus en plus d'histoires à raconter en se rapprochant des sportifs. C'est intéressant d'avoir votre expérience dans le tennis. Les caméras, on les accepte partout.
Oui, juste pour rebondir sur ce que disait Ludo, il ne faut pas oublier que les journalistes sont les vecteurs entre les athlètes, les joueurs et le public.
Ça, tout le monde ne le comprend pas aussi.
Oui. Donc, en tout cas, moi, c'est la philosophie que j'ai eue dès le début de ma carrière, c'est autant être complètement transparent avec eux, autant construire cette relation de confiance dès le début, et ils me l'ont rendu au final. Parce qu'au final, quand on se livre, quand on livre ses émotions, quand on livre quelque chose de vrai, ben en retour, on a des journalistes qui sont un petit peu plus compréhensifs, un peu plus bienveillants. Les conférences de presse ne se transforment pas en moment de souffrance, mais en un moment qui fait partie du boulot. Et au final, c'est vrai que c'est pas toujours agréable d'avoir les journalistes, d'avoir cette confrontation juste après une défaite ou un moment difficile. Mais moi, c'était comme une sorte de famille que je retrouvais, en fait. Et c'était presque ma thérapie. J'allais leur parler de mon match, de mes ressentis. Et c'était devenu un moment relativement agréable. Mais alors après, je suis un petit peu plus tranchée par rapport à on va dire
l'intimité vraiment dans l'avant-match, par exemple.
L'insertion vraiment du média au sein du vestiaire. Moi, je trouve qu'il doit y avoir quand même des compartimentations. Ça se dit pas, mais on peut compartimenter entre les moments où les joueurs vont donner de leur temps aux journalistes et l'espace qu'on doit donner aux athlètes où ils peuvent garder leur intimité. Ils ont leur routine. Mmh. Ils ont vraiment le droit d'être eux-mêmes.
T'as eu des mauvaises expériences, toi?
Ça, on l'entend tous, ça, Lisa.
Ouais. Si on met des caméras partout.
En tennis, les portes sont souvent fermées, quand même.
Alors, les portes sont souvent fermées, mais lors de Roland-Garros, on a quand même le choix d'avoir une journaliste qui nous suit avant nos matchs.
Ouais.
Moi, je sais que j'ai donné la chance à la journaliste de me suivre peut-être une ou deux fois.
Avec une caméra,
j'ai pété un plomb. Ouais, j'ai pété un plomb parce que ça me correspondait pas du tout d'avoir une caméra derrière moi qui me regardait quand j'étais en train de me coiffer devant la glace.
Ouais, parce que tu te coiffes beaucoup.
Ça. Bah oui, en plus je passais des heures, donc forcément j'avais l'impression d'être un peu psycho, mais il y avait cette violation un petit peu de cette intimité où moi j'avais envie d'être seule avec moi-même, de me concentrer, et je sentais que c'était un parasite. Et donc au bout de la troisième fois, je leur ai dit, écoutez, j'aimerais beaucoup vous livrer ce moment d'intimité pour que les gens apprennent à me connaître et pour que finalement ils nous accompagnent avant le match, mais c'est hors de portée pour moi. J'arrivais pas finalement à être complètement apaisée avec ça. Et en même temps, maintenant que je suis quasi à la retraite, je me mets du côté du spectateur et on a envie, on est curieux, on a envie de savoir ce que l'athlète il vit dans les coulisses. On a envie de s'identifier un petit peu à eux.
Faut trouver l'équilibre.
Il est vraiment pas évident à trouver cet équilibre, mais c'est important quand même de laisser de l'espace aux joueurs et de respecter un peu ces moments de solitude.
L'immersion des médias dans votre intimité de sportif, Sarah.
Alors moi, j'ai pas vécu l'entre-deux, parce que quand je jouais, les médias ne se déplaçaient pas, on n'avait pas les réseaux sociaux, donc en fait le.
Mais pas la télé.
Ludo, elle est en noir et blanc. D'accord ?
Ludo, tu nous parles d'une autre époque, c'est pour ça.
T'avais pas de zapette, en fait.
Exactement.
Il n'y avait que Christophe Sessieux.
Il fallait se lever et appuyer sur le bouton.
On peut mettre une petite musique triste.
Ce que je veux apporter dans mon témoignage, c'est que le tennis est un sport qui se joue à travers le monde toute l'année. Et finalement, les seuls moments où on était sous les projecteurs, c'était sur les tournois du Grand Chelem. Quand on allait au fin fond de l'Indonésie ou au fin fond de l'Amérique du Sud, autant dire qu'il n'y avait pas de médias français. Mmh. Et à l'époque, ça ne se faisait pas d'avoir le numéro de téléphone du joueur et de l'appeler à la fin de son match en disant « alors comment ça s'est passé ?» Donc en fait, il y avait une distance entre les médias et le joueur tennis parce qu'on ne le côtoyait que de manière très sporadique. En revanche, quand après j'ai arrêté et que j'ai commenté le tennis, ma volonté de commenter, c'était d'expliquer pourquoi il y avait ces comportements, ces changements. Et en fait, j'essayais d'expliquer ce qui se passait derrière.
Et donc, tu as besoin d'avoir des accès, du coup, pour comprendre.
Oui, mais au début, je l'expliquais par rapport à mon expérience, en fait, pour qu'on comprenne mieux le match de tennis. Et puis, petit à petit, sont arrivés des éléments contextuels de communication, de médias, de caméras qui ont fait que on a vu l'envers du décor. Et en fait, aujourd'hui, on ne peut plus consommer du sport sans l'envers du décor. Mais où est la limite ?
Ouais. Ça, c'est un peu le problème du tennis aussi, on en a parlé tout à l'heure.
Justement, on a un appel au 32-16 de Lionel, fan de tennis. Un appel de Mougins. Salut Lionel.
Salut tout le monde.
On a une question à poser dans le vestiaire des GG, c'est ça ?
Ah bah oui.
Dis-nous.
Alors on va apprendre la petite nouvelle. La nouvelle grande gueule.
Question pour Alizé Cornet, vas-y.
Salut. Je crois que c'est une niçoise.
Bah oui, Mougins, c'est quasiment
un habitant. J'ai le privilège de la croiser sur quelques terrains de padel et tout ça. Donc,
elle est sympa,
en boîte de nuit, non ?
Vas-y Lionel.
Alors là c'est justement
Lionel, ta question.
Moi j'ai une petite question justement par rapport à ça. Il y a eu quelques sportifs dont Netflix s'est approché d'eux pour faire quelques reportages. Et si je ne m'abuse, il y avait eu même Caroline Garcia qui avait eu, non ?
Pas sur Netflix. En tout cas, il y a eu une série Netflix qui s'appelait Breaking Point pendant deux saisons qui a été arrêtée à un moment donné parce qu'il y avait notamment
pas assez. Alors, t'as fait un mix entre Breakpoint et Breaking Bad.
Alcaraz,
dernièrement.
C'est quoi la question, du coup, Lionel ?
Du coup, ta question, Lionel ?
Alors du coup, je me dis, s'il avait proposé à Alizé, parce que premièrement, ça l'aurait intéressé, parce que c'est assez novateur, c'est intéressant, et comment elle l'aurait abordé ? Elle aurait été vraiment ouverte sur tout, ou il y aurait eu des détails où elle dit, attendez, là, c'est trop, je veux pas trop divulguer, parce que je sais que, je dis pas de bêtises, j'espère statistiquement, tous ceux qui avaient pas fait cette émission, comme par hasard derrière, les résultats, ils n'y avaient pas trop suivi.
Ouais, on appelait ça la...
La malédiction de la série.
Alors, merci pour la question. Déjà,
est-ce que tu aurais accepté?
Dans un premier temps, Netflix. Je pense que Netflix ne se serait jamais intéressé à ma carrière. Donc, si elle s'était intéressée à moi, si Netflix s'était intéressée à moi, ça aurait été un bon problème. Parce que je pense que c'est une belle chose d'être médiatisée. Ça permet encore une fois aux gens d'apprendre à mieux nous connaître. J'aurais sûrement accepté. Et si j'avais accepté, j'aurais vraiment tout donné. Parce que il n'y a pas d'intérêt de faire un reportage si on dévoile pas complètement qui on est, si on montre pas toutes ses failles, ses faiblesses, ses forces, si on rentre pas dans l'intimité profonde du joueur. C'est ce que j'ai beaucoup aimé avec le reportage de Carlos Alcaraz, contrairement à Breakpoint où j'ai trouvé ça totalement superficiel.
Et puis faux.
C'est un peu mise en scène, on sentait.
Ouais, non, mais ouais. C'était
Carlos Alcaraz a fait une série en 3 épisodes sur
ça. On a fait allumer d'ailleurs là-dessus.
Oui, c'était mérité. Hein. Et Alcaraz, on a vraiment appris à savoir qui il était. Et je pense que c'est important, si c'est son choix, de donner le maximum d'informations aux médias et de faire que la série est qualitative grâce à cette information.
Alors pour le coup, il y a aussi un intérêt, Sarah, on en a parlé en préparant ce vestiaire. Effectivement, quand tu es joueur du top 100 dans le tennis, tu gagnes plutôt bien ta vie. Mais moi, j'ai souvenir de séries, je crois que c'était pour Prime Video, pour pas les citer, avec des joueurs français au-delà du top 100, oui, qui avaient intérêt aussi finalement à se montrer parce que économiquement aussi, ça peut apporter quelque chose de montrer l'intimité. Parlons des choses importantes aussi.
Exactement. Voilà. Aujourd'hui, le fait de pouvoir se mettre en scène, d'avoir une communauté, ça a une valeur marchande. Qui dit valeur marchande, tu le monétises. Et finalement, tu peux monétiser une partie de ce que tu es ou de ce que tu fais indépendamment de tes résultats. Ce qui n'était pas le cas à mon époque. Tu ne gagnais de l'argent que si tu performais. Aujourd'hui, ton équilibre financier en tant que sport individuel, il est autant finalement sur tes résultats, mais ce que tu peux représenter, le personnage que tu crées, la monétisation.
Et donc tu es une petite entreprise dans le tennis.
Absolument. C'est la grande différence.
Après, quand on se plaint des réseaux sociaux en disant on se fait insulter sur les réseaux, c'est invivable, et que les gens nous disent mais vous avez qu'à vous enlever des réseaux sociaux. Oui, mais en fait, nous, les réseaux, c'est une valeur marchande.
Et c'est comme ça qu'on vient de chercher et qu'on paye.
Après, ça a réalisé, c'est pas toujours évident. Alors là, on a deux bêtes de scène, deux bêtes de médias sur le plateau avec Alizé et Sarah, mais
Pascal est pas mal.
Pascal, il est en boîte déjà là. Mais non, mais sérieusement, en fait, les sportifs aujourd'hui ne comprennent pas toujours le lien ou l'intérêt qu'ils peuvent avoir. D'ailleurs, Alizé l'a effleuré un peu à se dévoiler. Moi, je vais vous raconter une anecdote.
Qu'ils ne comprennent pas.
C'est
moi,
pas toujours évident.
Qu'ils le comprennent beaucoup méfiance. Trop pour certains.
C'est pas évident. Il y a de méfiance et c'est vrai que certains journalistes qui ne méritent pas non plus qu'on se confie à eux.
Il y a eu des abus, c'est pour ça.
Je me rappelle d'une interview que j'avais faite avec Alexandre Lacazette. Mmh. Et voilà, quand, à son époque lyonnaise, la première époque lyonnaise où il était aussi en équipe de France, qui juste avant l'interview me dit j'ai pas envie de te parler, j'aime pas les journalistes, je vous fais pas confiance. Donc voilà, moi j'étais pas là pour mon lien avec lui, j'étais là parce que son agent, David Venditelli, pour ne pas le citer, pensait que c'était bien qu'il communique parce qu'il avait quelques petits soucis de communication et notamment avec l'équipe de France. Donc moi je suis là pour le rassurer, je suis là pour lui dire que ça va bien se passer, etc. Mais c'est pour rappeler aussi que ce lien n'est pas toujours évident et qu'il y a des sportifs qui ne comprennent pas l'intérêt et qui sont pas à l'aise.
C'est peut-être aussi qu'on les a pas préparés pendant leur formation.
Je prends
le cas des footballeurs, mais ça tombe sous le sens qu'on a besoin des médias, on a besoin d'être mis en lumière, bien sûr principalement par nos performances, mais aussi par le traitement qu'on va donner à votre performance. Donc il faut que, d'ailleurs, en tout cas dans notre sport, le football, de mieux en mieux, on arrive à préparer les joueurs,
appréhender les médias et les
attitudes.
Dans le tennis, ça se fait avec le média training, exactement, voilà. Chez les jeunes. Ouais.
Mais Alizé, moi j'avais une question à te poser aussi, parce qu'on parle de l'immersion des médias, tu fais partie de la génération actuelle du tennis. Aujourd'hui, la question se pose sur... tu vis avec les réseaux sociaux, et aujourd'hui, on peut se passer des médias quand on est sportif et passer directement auprès du public. On voit Yannick Sinner, il a une page YouTube aujourd'hui, il partage un petit peu son quotidien. Certains ont des podcasts, on a parlé de Caroline Garcia tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on est sportif, toi par exemple, tu te poses la question et autour de toi sur est-ce que j'ai besoin des médias, est-ce que je peux pas être mon propre média.
En plus, moi j'ai eu les deux. J'ai commencé ma carrière en 2005, il y avait pas les réseaux sociaux, pas du tout. Ils sont apparus vers 2008-2010 où d'un coup ça a explosé. Donc il y a eu cette période d'adaptation. Au final, on apprend à vivre avec un nouveau réseau, quelque chose de nouveau pour communiquer avec les gens. Alors, je trouve ça bien d'avoir une plateforme qui permet de se dévoiler de manière, on va dire, indépendante avec les spectateurs, avec les fans de sport. Mais c'est quand même bien de garder ce travail d'équipe quand même avec les médias. Les médias, c'est une partie complètement à part entière, en fait, du métier. Il faut apprendre à la dompter, il faut apprendre à l'accepter. Et au final, moi, j'ai tendance à me dire qu'un joueur qui va faire ça de son côté, il passe à côté finalement d'une de ses expériences expérience aussi professionnelle, c'est-à-dire bosser avec les médias, et ensuite ça peut amener vers une reconversion.
Mais il gagne aussi de l'argent directement parce que c'est sa propre plateforme. On parlait d'être sa petite entreprise tout
mais
à l'heure.
Mais est-ce que Sinner a besoin d'argent?
Non, mais c'est vrai, t'as raison. Non, mais
en tout cas, de cet argent-là.
Le sport en direct, il n'est pas retransmis par tes réseaux sociaux. Le sport, c'est la seule, aujourd'hui, c'est le seul événement que tu continues à voir en direct de manière quotidienne. C'est la sphère médiatique qui retransmet le sport en direct. Après, encore une fois, si tu estimes que tu n'as pas à t'adresser aux médias qui retransmettent ta performance, et ben tu t'étonnes pas de ce qui est dit sur toi.
Oui, c'est
voilà,
ça.
Tout simplement.
En fait, c'est donnant-donnant. C'est exactement ce que tu disais, Ludo, tout à l'heure.
Parfait. Bon, vous allez continuer de nous parler, j'espère, hein, les sportifs. Pascal nous aime un peu mieux maintenant depuis qu'il a et il est passé de l'autre côté. J'aime bien ça passer de l'autre côté.
Il y en a quand même que j'aime pas du tout. Ça sera définitif.
C'est d'ailleurs pour ça, Pascal, que Jean-Christophe n'est plus là aujourd'hui.
Ce qui est important pour clore, c'est la sincérité que vous dégagez. Voilà. Moi, j'ai toujours voulu être moi-même, au travers des médias, sans médias. Voilà. J'ai envie que mes amis me reconnaissent, y compris quand je suis en train de parler avec vous.
Pascal était ce qu'on appelle un bon client.
Oui, effectivement.
Un bon client.
Mais exactement.
Et ça,
sa voix et son verbe, Pascal a toujours été très bon.
Allez, on referme ce vestiaire des GG. C'était très intéressant de vous avoir et sur cette thématique-là. Et on va à chaque fois essayer d'aller un petit peu plus en profondeur sur ce type de sujet pour avoir aussi vos expériences, partager quelques anecdotes qui servent à donner un peu d'épaisseur à certains sujets parfois. Bah, tiens.